Pour introduire le message de ce matin, je vais simplement lire deux versets. Le premier dans Luc, chapitre 1, verset 37. Le deuxième dans Marc, chapitre 9, verset 23. Le premier, car rien n'est impossible à Dieu. Le deuxième, c'est Jésus qui parle et il dit « Tout est possible à celui qui croit ». Bon, on va y aller dans la continuité. Rien n'est impossible à Dieu. On le sait, on l'a compris depuis ce matin, on le chante, on le loue, on témoigne. Dieu peut tout. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, enfin, il est partout, il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Et il a la toute-puissance avec lui. Il est celui qui est l'alpha, l'oméga, qui est le début, la fin. Il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il est celui qui est le Tout-Puissant, le Roi des Rois. Il est le Souverain. Ça veut dire qu'avec sa toute-puissance, Roi des Rois, il est celui qui décide. Et il peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et quand il veut. Ça, c'est la toute-puissance. Alors, je ne vais peut-être pas m'étaler là-dessus ce matin. Je vais essayer d'être court. Mais ça n'empêche que, voilà, il est le souverain. Le psaume 47 nous en parle. Poussez des cris de joie, car l'Éternel est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il met les nations sous nos pieds. Verset 8. Dieu est roi de toute la terre. Verset 9. Dieu règne sur toutes les nations. Il est souverainement élevé. Au verset 11. Ça, c'était le premier verset qui va introduire le message de ce matin. Et dans le deuxième verset, je disais que tout est possible à celui qui croit. Et ça, on est dans un contexte un peu particulier. Il y a un père de famille qui est inquiet pour son fils, un jeune enfant qui est rempli d'un démon, qui le jette dans le feu, qui cet enfant écume, etc. Et il a demandé aux disciples de guérir, d'intervenir, mais les disciples n'ont pas pu. Et là, Jésus arrive. Et ce père de famille, ce papa, dit à Jésus, « Seigneur, si tu peux, fais quelque chose pour mon fils. » Et la réponse de Jésus, c'est « si tu peux, point d'interrogation, point d'exclamation, c'est tout ce que vous voulez. Mais tout est possible à celui qui croit. » Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est une parole de Jésus qui est adressé à ce Père. C'est une parole de Jésus, mais ce n'est pas simplement une parole en l'air, c'est une vérité, c'est une promesse. C'est quelque chose que lorsque l'on se l'approprie, mais ça se réalise. Tout est possible à celui qui croit. Et il faut être convaincu que Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions croire à la puissance de Dieu, pour que nous puissions aller plus loin dans l'intimité de Dieu. Oui, Dieu veut, au travers de Christ, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions rentrer dans son intimité, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Mais il nous sauve pour autre chose. Il nous sauve pour être participants dans sa toute-puissance. Oui, Dieu peut tout. Quand je crois à Christ, Dieu peut tout. Par contre, il me demande aussi d'intervenir dans quelque chose. En contrepartie, il donne tout, c'est vrai. Mais il va me dire, est-ce que tu ne veux pas faire ça non plus? Je te sauve, mais c'est pour me servir. Je te sauve, c'est pour répandre ma gloire, c'est pour répandre ma grâce autour de toi. Alors oui, je peux te guérir. Mais est-ce que toi, tu ne peux pas faire un petit truc? Est-ce que toi, tu ne peux pas faire une petite chose? Est-ce que tu ne peux pas apporter ta part, ta contribution au miracle, à ma puissance? Et Dieu ce matin me dit, eh bien je t'ai sauvé pour que tu me serves. Je t'ai sauvé pour que tu ailles plus loin, pour que tu sois un instrument de bénédiction autour de toi. Parce que oui, Dieu nous dit, je peux tout. Je dis, la chose se fait. On le voit dans la Genèse. Hein. Que la lumière fut, pof, la lumière est. Que les que le ciel et la terre apparaissent, pof, ça apparaît. Dieu dit, la chose se fait. Il est tout puissant, il n'a pas besoin de nous. Pourtant, dans son amour, il nous rend participants à son œuvre. Il nous rend participants dans son action. Et Dieu cherche des hommes pour veiller sur la nation. Dieu cherche des hommes pour veiller en étant sur la brèche et pour sauver le pays. Mais il n'en trouve pas. Nous trouvons ça dans Ézéchiel 22. Et Dieu, ce matin, il nous dit, je cherche un homme pour aller dans ma moisson. Ah Seigneur, oui, ta moisson, elle est grande, alors envoie des ouvriers. Ça, c'est une bonne prière. Mais c'est toi que je veux envoyer. Non. Alors ça, c'est de la folie. Quand je me regarde dans un miroir et que tu veux m'envoyer pour proclamer ta parole, quand je me regarde dans un miroir et que je vois l'homme que je suis, j'ai beau être une bonne créature, parce que c'est toi qui le dis, ben non, Seigneur, tu te trompes. C'est de la folie, pas moi. On voit qui tu veux, mais pas moi. Hein, j'ai déjà prêché là-dessus il n'y a pas très longtemps avec Moïse, qui a dit la même chose à Dieu. Non, non, pas moi, parce que de toute façon, j'ai plein de défauts. C'est toi que tu veux, tu ne discutes pas. Mais quand Dieu nous dit quelque chose, si on n'a pas le choix, on y va, parce que bah, peut-être que le miracle et peut-être que la toute-puissance de Dieu découle aussi de notre obéissance, du comment je vais dire oui à cet appel de Dieu. Mais c'est de la folie. Bah, c'est pas grave. C'est de la folie. De toute façon, c'est Dieu qui le dit. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et toujours dans l'Épître aux Corinthiens, même chapitre, un petit peu plus loin, verset 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Il rajoutera plus loin, c'est Paul qui parle, c'est finalement quand je suis faible que je suis fort pour Dieu. Dieu a choisi les choses viles de ce monde. Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour se glorifier. Quelle puissance, quelle bonté par. Concrètement, ça va donner quoi ? Ben, Dieu cherche. Il nous est dit dans la Bible qu'à un moment donné, Dieu a fait un festin des noces. Il veut rassembler autour, le roi veut rassembler autour de lui tous les notables du coin. Et puis, ben ils ne sont pas là. Il y en a un qui faut qu'il aille se marier. Il y en a un autre, il faut qu'il aille essayer sa paire de bœufs. Un autre, il est occupé par je ne sais pas trop quoi. Et finalement, il n'y a personne. Et Dieu cherche des hommes. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Ce roi va dire à ses serviteurs, eh bien, allez sur la place, allez dans les rues, puis ramenez tous les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, tous les moches de la société, tous ceux qu'on ne veut pas. Et on va faire le festin ensemble. C'est de la folie, n'est-ce pas ? Allez faire un repas en invitant tous les SDF de Nantes, on va nous dire, 1, 2, 3, ça va, mais quand il y en a 50, 60 d'un coup à table, ça fait beaucoup. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Et il veut nous rendre participants à son œuvre. Voilà. J'ai synthétisé ma première partie, parce que je pense que tous les chants et les témoignages, de toute façon, étaient déjà assez clairs. Maintenant, je vais rentrer un peu plus sur le terrain, d'une façon concrète. Au niveau de la Bible, ça donne quoi ? Les gens qui s'investissent pour Dieu, que Dieu choisit. Si j'avais un titre à donner à ce message ce matin, ce serait « Dieu utilise le peu que j'ai ». Dieu utilise le rien, le petit rien, mais Dieu l'utilise. Déjà, Jésus est une folie en lui-même. Vous connaissez cette phrase de Nathanaël lorsque Philippe le rencontre sous le figuier. Philippe est tout joyeux, tout enthousiasmé, puis il lui dit « Ah, Nathanaël, on a trouvé le Messie dont parlent les prophètes, dont parle Moïse. C'est Jésus de Nazareth. » Alors là, il y a un gros froid. Et Nathanaël, il dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Oui, Jésus, c'est déjà une folie en lui-même. Nazareth, c'est un petit trou perdu. C'est, on va dire, un quartier, de nos jours, ce serait peut-être un quartier du style Malakoff, Bellevue. Le quartier que personne ne voulait à l'époque. Le quartier des marginaux, avec une toute petite ville. Et Philippe, il va dire à Nathanaël, qui est quand même quelqu'un de très cultivé, on a trouvé Jésus de Nazareth et c'est lui le Messie. Non, non. On ne peut pas sortir quelque chose de bon de Nazareth, ce n'est pas possible. Et pourtant, si. Et on voit que la rencontre se fait avec Jésus. Et là, Nathanaël découvre, ah ben oui, ce Jésus, il sait que j'étais sous le figuier, il sait que je fais ça, il sait que je suis un homme juste, il sait. Ah, Jésus, en tant que fils de charpentier, a dû se battre pour pouvoir apporter le message de l'Évangile. Parce que lorsqu'il est dans la foule, beaucoup de gens disaient, mais oh Jésus, c'est pas le fils du charpentier, là, ce petit fils d'artisan, là. Bon, c'est pas un notable, ça. Puis son frère, sa sœur, c'est... Mais ils sont à côté de nous. Jésus est lui-même une folie. Parce qu'il vient d'un petit village. Parce qu'il est fils d'ouvrier. Parce qu'il n'avait pas la connaissance religieuse des pharisiens de l'époque. Jésus est une folie à lui-même. Et moi, est-ce que je viens pas quelque part d'un trou perdu de la France ? Est-ce que je ne peux pas être un instrument béni entre les mains de Dieu ? Qu'importe mes origines professionnelles, qu'importe mes origines sociétales, qu'importe l'instruction que je peux avoir. Dieu me dit, mais je t'appelle, quel que soit l'endroit d'où tu viens, quel que soit l'endroit où tu es né, je t'appelle. Et tu vas faire des prodiges, et tu vas faire des miracles. Une autre folie, Marie. Ça aux yeux du monde, Marie qui reçoit un message de l'ange et qui lui annonce, tu seras enceinte, aux yeux du monde, c'est la pire folie. C'est pas possible. C'est inconcevable, point de vue humain. Et pourtant, elle ne se pose pas de questions. Elle explique juste une réalité, mais je ne connais pas d'homme, donc comment cela est-il possible ? Ben, rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que l'ange lui répondra. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie, en fait ? Elle a simplement dit oui. Elle ne s'est pas posé la question, « Ah oui, peut-être, mais je suis une jeune femme, gna gna gna, et puis surtout une femme. Oh. » Ben oui, elle ne s'est pas posé la question, elle y est allée, elle a dit oui. Elle a dit oui au même titre que Samuel a pu dire oui lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu. Elle a dit oui au même titre que tous les patriarches ont pu dire oui à l'appel de Dieu. Elle ne s'est pas posé de question. Elle a simplement tout donné à Dieu. Elle a quand même donné son honneur, hein. On peut dire, oh, on donne sa vie pour Dieu. Elle, c'est son honneur qu'elle a donné. Hein. Parce que se retrouver enceinte sans être mariée, elle risquait la lapidation, elle risquait donc de mourir, d'être séparée de son mari, évidemment, futur mari. C'est simplement une jeune fille juive qui se préparait à un mariage juif. Et elle a dit oui. C'est une folie, n'est-ce pas, aux yeux du monde ? Et pourtant, Dieu nous demande d'intervenir. Dieu nous demande, non pas maintenant de porter Jésus, parce que ça c'est déjà fait. Mais Dieu nous demande d'être un instrument de bénédiction entre ses mains. Dieu nous demande simplement d'être Marie. Est-ce que tu peux faire ça? Oui. Je ne me pose pas de questions, je fais. Puis Dieu pourvoit après. Le comment, le pourquoi, les conséquences, il pourvoit. C'est important de ne pas se poser de questions. Et ça va dans ton témoignage, Nathalie. On dit oui. Après, c'est Dieu qui assume. Si les gens ne sont pas contents, c'est un problème entre les gens et Dieu. Nous, on a fait ce qu'il fallait. Nous avons répondu oui. J'ai répondu oui à ce que Dieu me demande. Qu'importe les conséquences. C'est Dieu qui a tout entre les mains. C'est drôlement important, ça. Gédéon. Vous connaissez Gédéon, hein? On est en pleine guerre avec les Madianites. Et l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon en disant, tu vas me servir. Tu vas avec la force que tu as. Oui. Mais tu sais, Seigneur, ma famille, c'est la plus pauvre des tribus. Hein, et moi, je suis le plus petit de la famille. Je suis le dernier. Oui, mais tu vas avec la force que tu as. Et Gédéon a commencé à obéir à la parole de Dieu. D'abord, tu vas commencer par détruire tous les autels pour les dieux étrangers, là. Oui. Alors, il le fait, hein. En pleine nuit, comme ça, personne ne l'a vu, personne ne sait qui c'est. Mais c'est pas grave, il l'a fait. Il avait la peur au ventre. Il devait stresser un maximum. Mais il l'a fait. Parce que c'était la parole de Dieu. Il savait que, du moment que c'était Dieu qui demandait, là aussi, qu'importe les circonstances, qu'importe les conséquences, Dieu demande, je fais. Et il l'a fait. Et les autels de Baal sont tombés en une nuit. Alors le matin, c'était la panique. Qui a osé faire ça? Qu'on puisse le trouver afin de lui couper la tête. Je paraphrase, mais c'était un peu ça. Seul son père avait compris que c'était lui. Mais il l'a fait. Du coup, il a quand même eu autour de lui pas loin de 32 000 hommes qui étaient prêts à combattre les Madianites. Et là, il y a une folie qui se passe encore, une de plus. Dieu lui dit, oh, t'as 32 000 soldats avec toi. Non, non, c'est trop là. Il faut éliminer là, c'est trop. Alors tu vas dire à tous ceux qui sont un peu peureux, à tous ceux qui ont des tremblements au niveau des genoux, mais mes compatriotes, si vous avez peur, vous restez chez vous. Il y en a 22 000 qui sont partis. Il lui en reste plus que 10 000. Et Dieu lui dira, c'est encore de trop ça. Non, non, si je veux manifester ma gloire, 10 000 autour de toi, c'est trop. Ok, t'en as éliminé 22 000, mais il en reste encore 10 000, c'est trop. La parole de Dieu nous dit que l'armée des Madianites était aussi nombreuse qu'un troupeau de sauterelles et que leurs chameaux étaient aussi nombreux que les grains de sable du bord de la mer. Donc incalculable. On ne pouvait pas dénombrer le nombre. Et là, Dieu intervient. Tu fais telle et telle chose et à la façon où les gens vont se mettre à boire autour de l'eau, tu élimines ce que je te donne, ce que je te dirai. Au final, il se retrouve à 300. 300 contre une armée dont je dis qu'elle est incalculable en tant que nombre. Ils ont eu la victoire. C'est de la folie, n'est-ce pas? 300 personnes contre une armée incalculable. Ça, c'est de la pure folie. Est-ce que moi, je suis prêt à dire oui au Seigneur? Pour aller combattre toutes les puissances ténébreuses qui existent autour de nous. Est-ce que je suis prêt à dire oui à Dieu avec la force que j'ai, aussi petite soit-elle? Est-ce que je dis oui à Dieu? Parce que les ténèbres, il faut les combattre. Tu peux le faire tout seul, mais je veux être un ouvrier dans cette moisson. Je veux être un ouvrier à tes côtés dans ce combat. Est-ce que je peux dire oui? Je ne vous demande pas de répondre, c'est en interne. Ça fait déjà 3 fois que je me pose la question, et moi ? est-ce que je peux dire oui? Et moi, est-ce que je peux y aller avec la force que j'ai? Ce serait bien de répondre oui. Mais la liberté est à chacun. Le chef de l'armée du roi de Syrie, Naaman, là aussi, il y a une folie qui se passe. On voit la puissance de Dieu se manifester. Un grand homme de guerre, sauf qu'il est lépreux. Et là, on trouve cette histoire dans le deuxième livre des rois, à partir du chapitre 5. Et les Syriens ont envahi Israël et ont capturé pas mal de personnes, dont une petite fille qui était mise au service de la femme de Naaman. Et cette petite fille qui voit son maître lépreux dira à sa maîtresse: « Ah, si mon seigneur, mon maître, connaissait le prophète Élisée, mais il serait guéri de sa lèpre. » Une enfant qui ose dire quelque chose à sa maîtresse. Une petite esclave qui ose dire que il y a un prophète Élisée qui peut guérir son seigneur. Le message est passé à Naaman, qui lui envoie une lettre au roi d'Israël, qui se met en colère parce qu'il considère que c'est presque une demande officielle d'attaque. Et puis il y a Élisée qui apparaît, qui survient. « Oh, t'inquiète pas, mon roi, moi je m'occupe de Naaman. Pardon. » Et là, chose bizarre, chose folle, Élisée va dire à Naaman: « Écoute, tu vas te laver 7 fois dans le Jourdain. » Comment ça, je vais me laver 7 fois dans le Jourdain? Il y a d'autres lacs, il y a d'autres fleuves qui sont aussi bien. Pourquoi celui-là? Et quelqu'un de très sage dira à Naaman: mais s'il t'avait demandé quelque chose de très compliqué, tu l'aurais fait. Donc là, il te demande une chose toute simple, une folie. Juste te baigner 7 fois dans l'eau du Jourdain. Une véritable bêtise, une folie. Mais s'il t'avait demandé de faire 15 fois le tour du monde, tu l'aurais fait. Donc fais la chose simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et finalement, il s'est plongé dans l'eau, il a été guéri. Une petite fille a osé dire quelque chose à son maître. Est-ce que moi, je suis prêt à dire oui pour aller porter la guérison autour de moi? Est-ce que je peux dire oui au Seigneur? Je veux bien être un instrument de bénédiction pour toi et apporter la guérison physique et spirituelle à tous ceux qui en ont besoin. Autre exemple, vous connaissez tous l'histoire de la multiplication des pains. Donc, dans le contexte, on trouve ça sur les 3 évangiles, sur tous les évangiles. Seul Luc apporte un petit détail que les autres n'ont pas. Tout vient, là encore, d'un enfant, un jeune garçon. Donc, dans le contexte, c'est Jésus qui prêche. Il y a la foule. Il semblerait qu'il y avait au minimum 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on peut peut-être dire 20 000 à la louche, 15, 20 000, je ne sais pas trop. Et puis Jésus prêche, il prêche. Les gens sont très dociles parce que, évidemment, lorsque c'est Christ qui parle, il y a une telle autorité, une telle puissance que tout le monde écoute. Et puis d'un seul coup, 21 h, il faut peut-être qu'on pense à manger. C'est bien beau d'être à l'écoute, mais si on ne mange pas, on va s'affaiblir. Puis il y a 20 000 personnes. Vous pouvez aller à Leclerc à 21 h, 20 000 personnes, vous ne pouvez pas les nourrir. Même en dévalisant le magasin alimentaire. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Il faudrait peut-être que tu fasses un petit miracle pour nourrir la population quand même. Oui, faites-le vous-même. Dieu veut que nous soyons participants à son œuvre. Qui que nous soyons, où que nous soyons, Dieu veut nous rendre participants à son œuvre. Alors bon, faites-le vous-même. Seigneur, merci. Ça, c'est une leçon de terrain et c'est une leçon d'école. On fait quoi ? Ben, finalement, il commence à chercher à droite et à gauche au milieu de la foule. Et il y a un petit garçon qui dit ben, « Moi, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons, je les donne. » Et ça, ça a été donné à Jésus. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, donc, si j'avais un titre à donner, c'est « Dieu utilise le peu que j'ai ». Dieu utilise le rien. 5 pains, 2 poissons. C'est vrai qu'à première vue, c'est de la folie. Et pourtant, le miracle a eu lieu. Tous ont été rassasiés. Et il nous est dit qu'il restait 12 paniers. Et là, ça m'interpelle. Est-ce que je suis prêt à transmettre le pain de vie autour de moi ? Parce que Jésus est bien le pain de vie. La Bible nous le dit. Je n'ai pas le verset en tête, mais ce n'est pas très grave. Mais Jésus dira, je suis le pain de vie et celui qui mangera de ce pain n'aura plus jamais faim. Est-ce que je suis prêt à répondre autour de moi ce pain de vie ? Est-ce que je suis prêt à dire, Seigneur, ben écoute, oui. Je vais annoncer l'évangile à tel endroit, tel jour, parce que tu me le demandes. Je vais annoncer l'évangile à mes voisins, à ma famille, parce que tu me le demandes. Le résultat, je m'en fiche. C'est toi qui gères tout. Mais oui, Seigneur, je vais le faire. Je disais qu'il restait 12 corbeilles, 12 disciples, 12 tribus. Est-ce que je suis prêt à soutenir Israël ? Est-ce que je suis prêt à bénir Israël ? Parce que c'est aussi ce que Dieu nous demande. Israël est le peuple élu de Dieu. Israël, ce sont les enfants de Dieu. Mais Dieu a aussi besoin que l'on soutienne Israël par nos prières, par nos bénédictions. Est-ce que là, je suis comme ce petit garçon qui a donné son pain, son poisson ? Est-ce que je suis prêt à transmettre autour de moi la parole de vie, le pain de vie ? Et est-ce que je suis prêt à dire « Oui, Seigneur, je m'investis pour Israël. Je veux bénir Israël. » Là encore, chacun cherchera. Jésus est le pain de vie, on trouve ça dans Jean chapitre 6, il me semble, dans les versets quelque chose comme 30. Là, on a vu plusieurs faits, plusieurs cas de société sur l'Ancien Testament et Nouveau Testament, où Dieu utilise les choses petites de ce monde pour se glorifier et pour confondre. Est-ce que je veux être un disciple de Christ ? Au même titre que l'étaient les 12 disciples. Jésus était un super DRH, un directeur des ressources humaines. Moi, j'embauche, je ne prends aucun des disciples. Je ne sais pas pour vous, mais j'en prends aucun. Déjà, il faut les faire cohabiter ensemble. Alors, bonjour à l'organisation, hein. Mais cela dit, Jésus a quand même choisi 12 personnes qui, aux yeux du monde, sont tous plus ou moins un peu un petit grain de folie, si je peux me permettre. Vous les connaissez tous, les 12 disciples, hein ? Bon, je ne vais pas vous demander de les réciter. Alors on a André, le plus timide, mais alors là, le discret, on n'entend presque pas parler de lui. Le tout discret, mais c'est quand même le premier évangéliste. Il a rencontré Jésus, tout de suite il va dire à son frère Pierre, j'ai rencontré le Sauveur. Et après ils partent tous les deux, ils deviennent tous les deux disciples. Le plus timide, Jean, celui qui a un amour possessif pour Jésus. Bon, Jésus l'aimait bien aussi. Mais ça n'empêche que Jean était très possessif dans sa façon d'aimer Jésus. Hein. C'est moi. Tu m'appartiens, c'est je te lâche plus, je suis sur ton épaule, je dors et je te lâche plus. C'était très possessif. Mais pourtant, il était là. Philippe, Le pragmatique, c'est celui qui dira à Nathanaël, écoute, tu viens et tu vois. Moi, si je vois, il faut voir, voilà. Si tu viens, tu vois, c'est très carré, c'est comme ça, c'est... Il ne faut surtout pas un angle qui dépasse de mon carré, c'est... Voilà, boum. Après, il y a eu Pierre, l'impulsif. Celui qui part en vrille dès qu'il y a un petit os dans le pâté, c'est lui qui part en vrille, qui part dans tous les sens, qui se met en colère, qui est un peu entêté aussi. Après, on a Jacques, le frère de Jean. Il est... Bon, c'est... Allez, on va dire l'ambitieux même. Il est celui qui demande à Jésus, « Bon, écoute, quand tu seras là-haut, je voudrais bien être à ta droite. Hein. » Il a de l'ambition, mais c'est bien, ça fait avancer. Il y a Thomas, celui qui ne croit en rien s'il ne l'a pas vu. Moi, celui-là, je ne l'aurais pas pris. Parce qu'aller faire des projets dans une entreprise avec quelqu'un qui ne croit que ce qu'il voit, c'est difficile. On a Matthieu. Alors là, celui-là, il est détesté de tout le monde parce qu'un percepteur... Hein, en France, il y a encore quelques métiers qu'il faut mieux éviter de dire. Dites aux gens, je suis percepteur des impôts. Il y a un gros froid qui se met, il y a un grand silence d'un coup. Je suis contrôleur fiscal. Bon. Et pourtant, il était là, Matthieu. Il y a Jacques, le deuxième, qui, lui, avait probablement un problème physique, si on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, on appellerait ça un homme de petite taille. Il semblerait, d'après certains théologiens, que c'était un homme vraiment petit. Et donc, on l'appelait le mineur, non pas parce qu'il était jeune, mais parce qu'il était très petit. Donc, il y a une époque, on appelait ça des nains. Maintenant, on appelle ça des hommes de petite taille. Parce qu'il faut faire attention au langage, quand même. Walt Disney, d'ailleurs, a changé Blanche-Neige et les sept nains. C'est Blanche-Neige et les sept créatures. Parce que nain, c'est une insulte. Bon. Ça n'empêche qu'il est là. Et on est dans l'inclusion. Jésus, il s'en fiche qu'il soit de petite taille. Ce qu'il regarde, c'est au cœur. Il y a Jude. Il n'y a que lui qui prononce le nom de Jude. Sinon, c'est Thaddée, je crois. Rien de particulier. Il a la délicatesse de pouvoir poser des questions embarrassantes. Par exemple, il dira à Jésus, « Mais Seigneur, pourquoi tu nous utilises, nous ? Pourquoi tu viens avec nous pour annoncer ton royaume alors que tu pourrais le faire à tout le monde ?» Petites questions pertinentes comme ça qui font réfléchir. Mon père était comme ça, tiens. Juste une parenthèse. Il m'écoutait. C'est bien gentil ton affaire, mais... Puis là, il y avait un gros point. Il appuyait là où il fallait pas. Mais c'est pas grave. Il y a Simon, le patriote. Alors lui, c'est l'évangile aux juifs. Point barre. Il y a Barthélemy, celui qui passe son temps à réfléchir, mais qui a du mal à agir. Et puis il y a Judas, celui qui devient un traître. Je ne sais pas si on se retrouve dans l'un des 12 là. Mais ça n'empêche que, humainement, vous montez une entreprise avec ces 12 gars, c'est de la folie. Et pourtant, quand on voit le boulot qu'ils ont fait tous ensemble, c'est extraordinaire. Dieu a utilisé des personnes un petit peu faibles, un petit peu fragiles, pour aller dans sa gloire. 12 disciples, tous différents les uns des autres. Mais qu'est-ce qu'ils étaient complémentaires ? En y réfléchissant bien, c'est vrai que Jésus est un très bon manager. D'ailleurs, beaucoup d'études de management sont faites à partir de la Bible. Oh, ils ne le disent pas, hein ? Mais vous avez des versets, des proverbes qui sont utilisés, vous avez justement ce genre d'exemples qui sont utilisés. Ma conclusion de ce matin, c'est... Je l'ai un petit peu cité tout à l'heure, c'est Paul qui parle. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est vrai que Paul, avec toute son intelligence qu'il avait, toute sa culture religieuse, tout son savoir, il dira quand même à Dieu, j'ai une écharde, enlève-la-moi. 3 fois, il lui a demandé. Et Dieu n'a rien dit, n'a rien fait plus exactement. Ma grâce te suffit. Parce qu'il nous a dit que il fallait qu'il reste humble. C'est quelqu'un, Paul. Hein, sur le chemin de Damas, il a une rencontre en tête-à-tête avec Jésus. Brutal. Mais oui, il en devient aveugle tellement que c'était brutal. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire, une rencontre aussi puissante avec Jésus? Quelles qu'en soient les conséquences, à la limite, je m'en fiche parce qu'il a été guéri après. Mais là, il y a vraiment une rencontre très, très brutale, hein, très, très forte. Et il nous dira aussi qu'à un moment donné, il est monté jusque dans le ciel et qu'il a entendu des choses, de toute façon, tellement fortes, tellement puissantes, qu'il ne peut pas les répéter parce qu'il n'y a pas de mots pour les dire. Et là, l'écharde a permis à Paul de rester humble. Parce que sinon, il y a de quoi prendre la grosse tête. Hein. Avec tout ce qu'il a vécu avec Dieu, il y a vraiment de quoi dire, « Ah, moi, je suis Paul. Hein. Waouh, je suis bon quand même. Hein. Vous avez vu, là, mes gros muscles. Hein. Ah, ça, c'est moins bien. » Et pourtant, il dira, « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Est-ce que je suis comme les disciples? Je dis oui. Je lâche tout ce que j'ai. Certains ont laissé quand même tomber l'entreprise familiale pour suivre Jésus. D'autres ont laissé leur métier de fonctionnaire pour suivre Jésus. Est-ce que je suis prêt à devenir disciple et à dire oui Seigneur, j'accepte de te suivre? Est-ce que même si je ne suis pas dans la basse classe, mais que je suis comme Paul, quelqu'un de quand même d'un niveau intellectuel supérieur, est-ce que j'ai suffisamment d'humilité pour dire à Dieu, oui, je te suis. Prends-moi comme je suis. Prends-moi avec la force que j'ai et tu feras le reste. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia, Père. Merci Père, parce que tu es notre force. C'est vrai que nous avons vu ce matin que tu étais le Tout-Puissant. Tu étais l'alpha et l'oméga à qui rien n'est impossible. Et je te remercie parce que tous les jours tu nous invites à être des ouvriers dans ta moisson. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et ce matin je veux dire oui, je te suis. Je veux dire oui avec mes faiblesses, avec mes défauts, parce que j'ai confiance en toi et je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Père de nous utiliser, de m'utiliser pour ta gloire, dans le précieux nom de Jésus.